podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Retour aujourd'hui sur une série véritablement culte du petit écran. On vous parle de La Quatrième Dimension, apparue sur les écrans en 1959, le 2 octobre plus précisément, et créée par Rod Serling. Elle a vu défiler pas mal de grands noms de la littérature fantastique. Au niveau des acteurs, évidemment, on n'a pas vraiment trop de casting puisqu'il s'agit d'une anthologie. L'anthologie est un genre assez particulier de la télévision qui n'a plus trop de succès de nos jours, si ce n'est notamment avec les fameux Masters of Horror, principalement pour une raison de coût, puisque à chaque fois il faut changer les décors, évidemment. Pour nous en parler aujourd'hui, Sarah Sepulcre, et pour en discuter avec nous, Nathanaël Picasse.
Et comme tu l'as dit, elle débute le 2 octobre 1959, et là le public croit qu'il va être face à une anthologie normale. Parce que le premier épisode est complètement normal. Le créateur n'a pas voulu choquer et donc on est face à un épisode qui a une histoire qui se termine. Voilà, c'est bien.
Un petit goût de fantastique mais qui se termine logiquement. On a une vraie raison à cette incursion du fantastique dans la vie réelle.
Voilà, et donc les gens se disent qu'ils sont face à quelque chose qui va ressembler à Alfred Hitchcock présente ou à The Craft Suspense Theater ou la Desilu Playhouse. Alors oui, effectivement, les anthologies de l'époque portaient soit le nom des produits qui les sponsorisaient, comme dans le cas de Kraft, soit le nom de la boîte de production qui les produisait, comme la Desilu, par exemple. Et donc voilà, les anthologies, c'est donc une histoire différente à chaque fois, avec une unité de ton, une cohérence, en tout cas dans le genre en général. Dès le second épisode, ça se corse un peu, puisque Rod Serling a donc pu négocier avec les dirigeants de CBS que la série va se faire, et donc il se lâche. Et c'était clairement sa stratégie dès le départ, de ne pas faire peur aux gens, pour après pouvoir donner l'anthologie que nous avons connue, c'est-à-dire un échantillon d'histoire issu du fantastique et pour lesquels, franchement, parfois les chutes sont un peu, effrayantes. Vous savez tous, hein, la quatrième dimension, on rentre dans une dimension qui est non seulement faite de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Ça, c'est la voix off du début. Ça donne déjà une idée un peu de ce qu'on va voir. Le voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une seule destination, la quatrième dimension, à mon avis, on sait dans quoi plus ou moins on met les pieds. Quatrième dimension, c'est évidemment le titre français. Le titre anglais, c'est The Twilight Zone, qui veut dire la zone crépusculaire. La quatrième dimension, le titre a été choisi parce que ça fait référence à la théorie de la relativité d'Einstein. Je vous rassure, je ne vais pas vous en parler, j'en suis incapable. C'est le truc avec des E, des égales, des M et des 2. Ça fait référence à la quatrième dimension d'Einstein, c'est-à-dire le temps. Mais la version anglaise, en fait, va plus loin que ça, parce que la Twilight Zone, la zone crépusculaire, il croyait l'avoir inventée, mais s'est rendu compte après que c'était un terme utilisé dans l'armée de l'air pour désigner le moment où, quand un pilote d'OF-16 atterrit, ou d'avion rapide, il y a un moment où il ne voit plus du tout la ligne d'horizon, et où il est dans une espèce d'entre-deux-mondes, un peu dangereux d'ailleurs, et finalement ça colle assez bien. Maintenant, on peut aussi parler de la zone crépusculaire, qui est l'endroit où la nuit et le jour se rejoignent dans le ciel au coucher du soleil. Mais bon, effectivement, le titre français, s'il n'est pas parfait, il a au moins cet avantage de mettre le doigt sur le temps, qui est un des thèmes principaux de la série. C'est pas le seul, hein, il y a aussi les extraterrestres, la nature humaine, etc., etc. Mais le temps, c'est vrai que ça revient de manière assez récurrente dans les intrigues. Par exemple, un personnage qui a une montre magique qui permet d'arrêter le temps qui n'existe plus pour le seul survivant à une explosion atomique, ou le temps qui recule pour un homme au fur et à mesure où il se rapproche de son village d'enfance. Donc le temps est un thème principal.
Ce qu'il faut bien préciser, c'est que la quatrième dimension, on l'associe souvent à une autre série anthologie dont Nathanaël nous a déjà parlé, c'est Au-delà du réel, mais il y a très peu de rapport entre les deux, puisqu'au-delà du réel, on est vraiment ici dans le monstre, la science-fiction avec des personnages un peu particuliers, alors qu'ici, c'est pas vraiment le cas.
Le monstre qui chouille aussi, hein, la plupart du temps, dans Au-delà du réel.
À tel point qu'Au-delà du réel a plutôt mal vieilli, alors qu'un épisode de la quatrième dimension peut toujours se regarder aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'on a très peu de monstres en tant que tels dans la quatrième dimension. Quand on en a, ils sont relativement bien faits, sauf parfois dans les tout premiers épisodes, mais c'est vrai qu'ils ne jouent pas du tout cette carte. Ils jouent la carte du Nous sommes dans un monde habituel.
Où le monstre n'est pas toujours celui qu'on croit.
Voilà, et c'est vraiment, cette question du genre est intéressante, parce que je vous ai dit qu'une anthologie, c'est donc une unité de ton, de genre probablement. Elle flirte, c'est vrai, entre la science-fiction, l'humour noir, parfois le conte pour enfants ou la comédie, puisque certains épisodes sont drôles. Mais on est toujours face à une situation étrange, très proche de la réalité, qui à un moment dérape. Et donc on est face à du fantastique au sens littéraire du terme, c'est-à-dire en littérature on a Jean Rey ou Thomas Owen ou Comès en BD qui ont utilisé cette veine-là. Par exemple, dans l'épisode « Tous les gens sont partout semblables », un être humain est kidnappé par des martiens qui ont l'air très sympathiques avec lui, lui offrent une super maison et tout, ça a l'air super, mais en fait c'est une cage dans un zoo et donc sa maison est visitée par tous les autres martiens de cette planète. Ou dans Un monde à soi, par exemple, un écrivain peut donner vie à ses personnages ou les rendre au néant, et c'est le sort qui réserve carrément au créateur de la série, Rod Serling, à la fin de l'épisode. Et donc on est toujours face à la fin à des chutes qui mettent sérieusement mal à l'aise. Alors ça met mal à l'aise parce qu'en fait ces gens nous ressemblent furieusement. Ce sont des individus sans histoire qui vivent dans des villes qui ressemblent aux nôtres, enfin plutôt aux villes américaines de l'époque, mais le décor est donc celui du quotidien. On voit des gens qui prennent le car, des gens qui prennent le train, un père de famille qui voit rentrer sa femme et sa fille des courses.
Maple Street, dans une ville des États-Unis, nous sommes à la fin de l'été. De jolies petites maisons de bois aux porches coquets s'alignent gracieusement. On entend résonner les rires des enfants et la clochette du vendeur de glace. Lorsque vous entendrez ce bruit sourd et que vous verrez cet éclair de lumière, il sera très exactement 18h43 à Maple Street. Maple Street. Il est 18h44 cet après-midi de septembre. La vie coule doucement, paisiblement comme chaque jour. Attention, les monstres vont arriver. Que va-t-il se passer ?
Et puis sans raison particulière, un événement étrange survient. Parfois il est le fait d'extraterrestres, mais parfois pas du tout. Et même s'ils en réchappent, certains d'entre eux meurent, mais s'ils en réchappent, ils sont marqués à vie par cet élément qui a bousculé leur vie.
La conquête ne passe pas nécessairement par les bombes et les explosions. Il existe d'autres armes, de simples moyens d'exploitation. En l'occurrence, il suffit de connaître la faille qui existe en l'homme et de l'exploiter. Vous en avez eu un bel exemple dans Maple Street. Et vous avez pu vous rendre compte à quel point la suspicion était un élément perturbateur dans la société humaine. Malheureusement, ceci ne se produit pas seulement dans la quatrième dimension.
L'idée est effectivement de nous faire réfléchir, puisque ce monde ressemble tellement au nôtre, l'idée est de nous faire réfléchir sur le monde dans lequel on vit.
On se rend quand même bien compte que la série est très pessimiste sur la condition humaine et sur l'homme.
Oui, et d'ailleurs il disait, le créateur disait qu'à partir du moment où on joue sur le temps, le rapport au temps, c'est finalement ce qui fait l'être humain. C'est-à-dire le rapport au temps limité de l'être humain et donc à la mort. À partir du moment où on joue sur ce facteur-là, eh bien on fait ressortir l'essence de l'être humain, qui peut être fantastique, mais qui est généralement pas fantastique. Et donc c'est ça là-dessus qu'il désirait jouer. Ce qui est très très intéressant, je trouve. Et d'ailleurs, on sent que cette patte de Rod Serling, elle vient sur les thèmes, etc., déjà très très fort. On sent que c'est quand même son œuvre à lui. D'ailleurs, c'est de ça que je voulais vous parler maintenant, c'est de Rod Serling. Donc je vous dis, c'était le présentateur qui ouvre chaque épisode. Il faut savoir qu'en fait, c'est lui parce qu'Orson Welles coûtait trop cher. Et il aurait bien voulu ne pas le faire parce qu'il détestait ça. Il souffrait d'un stress terrible face aux caméras. Et donc la plupart des séquences qu'on voit, il paraît que ce sont des séquences prises à son insu. Il croyait qu'on était en train de répéter et donc ça allait mieux, mais en fait ils ont gardé ces séquences-là parce que les autres étaient bien plus mauvaises. Ce présentateur est vraiment l'espèce de rituel, comme le « il était une fois » des contes pour enfants. C'est vraiment le rituel qui permet aux spectateurs d'entrer dans le monde de l'étrange, ou dans le monde de l'horreur, ou dans le monde de que sais-je, ça dépend des anthologies. Ici c'est dans le monde dans l'étrange. Il les prend par la main jusqu'à évoluer dans le décor avec les personnages. Si c'est la partie la plus visible de l'iceberg, ça n'est pas la seule, parce qu'en fait il est effectivement le présentateur, c'est aussi lui le créateur, donc c'est lui qui a eu l'idée originale de cette série. Il est aussi la voix off durant les épisodes, puisque de temps en temps il y a des voix off en insère dans les épisodes, et il est aussi le principal scénariste de la quatrième dimension.
On peut dire quand même que c'est le créateur omnipotent de la série, plus que d'autres créateurs actuellement qui s'en remettent d'une foule de scénaristes et de producteurs et de joueurs. Ici, c'était vraiment son bébé.
Ah oui, c'était son bébé, et c'était même coulé dans le bronze, dans le contrat. Il devait produire 80% des scénarios et en écrire 20%. Donc déjà dans le contrat, il est marqué qu'effectivement, il est la personne qui dirige complètement cette série. Il faut savoir qu'il sera assisté par pas mal de scénaristes, dont des écrivains de science-fiction connu et très célèbre. Les deux principaux sont Charles Beaumont et Richard Matheson. Même s'il n'est pas le seul à écrire les scénarios, c'est quand même deux personnages récurrents, et donc c'est ce qui permet de garder une énorme cohérence à cette série. C'est vrai que dans d'autres anthologies, je pense que dans le cas d'Alfred Hitchcock, je ne suis pas sûre que c'est lui qui ait eu la mainmise à ce point. Je ne sais pas si on doit parler de mainmise d'ailleurs, ou si c'est plutôt une direction artistique vraiment en tant que telle.
Alfred Hitchcock a tourné sur la totalité de sa série une vingtaine d'épisodes tout au plus.
C'est aussi un spécialiste des anthologies. Avant ça, il avait travaillé principalement sur des anthologies. Par exemple, Studio One, Suspense, ce sont des anthos qu'on ne connaît pas du tout, nous, ici. Mais aux États-Unis, c'est vraiment des anthologies importantes. Et notamment, il a été très très fort remarqué par un épisode de The Kraft Television Theater qui a marqué tous les professionnels. C'est grâce à cet épisode-là que la Daisy Liu lui a donné la direction d'un épisode dans sa propre anthologie, et qui a tellement marché en 58 qu'il a décidé de se lancer dans sa propre aventure. Et sans ça, je pense qu'il aurait probablement pas eu carte blanche à ce point-là sur la quatrième dimension. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment pas seul. Dans les scénaristes, on retrouve Richard Matheson, je vous l'ai dit, qui est l'auteur du Journal d'un monstre. Pour ceux qui connaissent la SF, ils savent que c'est un roman important. Ce sont aussi des gens, tiens d'ailleurs, qui ont beaucoup voyagé entre plusieurs séries à ce moment-là. Star Trek, par exemple, était écrit par Richard Matheson, entre autres. Donc on se rend compte que la télévision des années 50-60 est aussi une affaire d'artisans comme ça et d'écrivains, et que notamment Rod Serling est un personnage important de cette télévision du début. Il y avait Charles Beaumont qui, lui aussi, était un écrivain et qui a lui aussi participé à pas mal de scénarios de cinéma ou de séries télé. Il y a Ray Bradbury qui est l'auteur des Chroniques martiennes, qui est de nouveau un roman important pour la science-fiction. On pourra encore en citer plein d'autres. Tu parlais des acteurs dans l'introduction, Alex. C'est vrai qu'on n'a pas d'acteurs récurrents, à part Serling qui est présentateur, qui revient à chaque épisode, mais on a par contre une palette de guest stars, je ne sais pas très bien comment dire, ou d'acteurs qui ont participé à cette série assez phénoménale.
C'est intéressant, c'était surtout que la plupart de ces guest stars n'étaient pas réellement des guest stars puisque c'était des futurs stars en devenir.
Voilà, il y avait déjà des stars à l'époque, Robert Redford par exemple, ou Burt Reynolds qui participent, mais c'est vrai qu'on a par exemple Elizabeth Montgomery qui n'est pas encore la sorcière bien-aimée, qui le sera plus tard. Peter Falk passe, Buster Keaton, Ron Howard, Martin Landau c'était Cosmos 1999, William Shatner qui sera plus tard le capitaine Kirk dans Star Trek, Sidney Pollack, c'est quand même une brochette de personnages assez intéressants.
Et puis au niveau du casting, on peut rajouter une chose, c'est que la série a eu deux génériques, celui qu'on connaît tous, et puis le premier qui avait été créé par Bernard Herrmann, le fameux compositeur d'Alfred Hitchcock qui a composé les plus belles musiques du maître du suspense. Début de troisième saison, CBS fait une grosse erreur.
Ouais, les networks ont toujours des erreurs à un moment. En fait, déjà, elle hésite. Est-ce qu'on la re-signe ou pas pour cette troisième saison ?
Et finalement, savoir que, par exemple, Au-delà du réel n'a pas dépassé les deux saisons.
Là, ça a failli. Donc, finalement, ils ont fait 18 épisodes. Faut savoir que, bizarrement, cette série a des nombres d'épisodes très différents selon les saisons. La première en fait 36 épisodes, je crois. Celle-là en fera 18 et change le format. Ça passe d'une demi-heure à 50 minutes. Et elle change aussi de titre. Vous allez me dire, c'est un peu anecdotique, mais c'était de Twilight Zone et ça devient Twilight Zone tout seul. Le but de la manœuvre est évidemment de brasser un public plus large. Et donc, effectivement, quand on brasse un public plus large, on abandonne un peu certaines règles d'écriture. Et d'ailleurs, Serling lui-même, qui vient d'accepter un poste d'enseignant, n'est plus le showrunner, le superviseur de la série. Il continue à présenter, mais il ne supervise plus les scénarios. Et franchement, la qualité s'en ressent. Résultat des courses, évidemment, ça ne marche pas.
Surtout que le format de 50 minutes ne correspond pas forcément au thème de la quatrième dimension.
Ah non, ça ne marche pas du tout. Étonnamment, on peut se dire qu'en 50 minutes, on a le temps peut-être de plus développer des choses, etc. Mais là, ça ne fonctionne pas du tout, effectivement. Il rejoue sur le format dans les deux dernières saisons, parfois 50, parfois 35, et ça perd complètement le public. À part ça, les deux premières saisons sont d'une très très bonne qualité. Faut dire, tu l'as dit tout à l'heure, que ça n'a pas pris une ride. On regarde aujourd'hui la quatrième dimension, et franchement, c'est un bon moment, il n'y a pas de souci. Peut-être que le noir et blanc aussi fait beaucoup. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas le choix, mais maintenant, je crois que ça donne une valeur intemporelle à la série qui est assez chouette.
Mais qu'est-ce qu'il y a ?
C'est fantastique.
Et qu'est-ce qui est fantastique ?
Je me sens de la force.
Hein ?
Bon.
curieux aujourd'hui.
Qui ça?
Cet aspirateur. Il ne pèse rien. Oh, il n'a jamais été lourd, attention. C'est l'un des plus légers du marché. Polyvalent, super maniable, une marchandise de première qualité. Allégeant le travail et allongeant donc la vie des maîtresses de maison. C'est fait du foyer. Et qu'il soit léger à ce point-là.
Oh. Vous n'avez jamais causé de problème, Dingle. Vous êtes toujours montré brave type. Pourquoi vous vengez tout à coup sur ma pauvre porte?
Monsieur O'Toole, je ne comprends vraiment pas. Comment ça se fait? J'ai juste voulu ouvrir et la porte est venue toute seule.
La quatrième dimension s'arrête en 64, mais c'est pas pour ça que ça s'arrête. L'histoire n'est pas finie. On va avoir une espèce de chute un peu horrible aussi pour cette série.
Finalement, la série a fini, comme la plupart de ses épisodes, mal.
Oui, c'est ça, en fait. De manière un peu pessimiste comme ça.
Il faut d'abord savoir que la série se continue à l'écrit.
Effectivement, ce sont des scénaristes qui sont des écrivains, donc effectivement, ils ont un peu tendance à en faire des nouvelles. Il y a eu des tonnes et des tonnes de recueils de nouvelles, La Quatrième Dimension.
Il y a d'ailleurs même un magazine édité par l'épouse de Rod Serling.
Oui, dans les années 80. Dans les années 60, la série est appréciée, mais n'est pas encore la série culte qu'on connaît maintenant. C'est dans les années 70 que ça commence. Et donc effectivement, les années 80, début des années 80, elle édite ce magazine dans lequel on retrouve de nouveau des nouvelles qui sont dans le même ton que la série. Donc, et de nouveau, qui sont écrits par des écrivains de SF qui ont participé ou pas aux épisodes à l'époque, etc. Et donc effectivement, on a des anthologies qui sont d'ailleurs, certaines d'entre elles sont traduites chez Press Pocket dans la partie francophone du monde. Mais c'est pas tout. Elle sera aussi adaptée au cinéma. Faut savoir que Serling lui-même avait envie de transposer son bébé au cinéma. Ça s'est jamais fait. En 63, Kirk Douglas a même été contacté pour un rôle. Par deux fois, il va essayer, et notamment il voulait adapter l'épisode C'est une belle vie, et ça ne marchera jamais. Ça marchera malheureusement dans les années 80 avec Steven Spielberg, vous savez bien, celui qui a fait E.T. après, qui s'empare de l'anthologie pour en faire un long métrage, un peu particulier parce qu'il est composé de quatre histoires. Donc c'est pas une seule et même histoire qui se déroule tout le film, mais il y en a quatre. Donc lui, il réalise une partie, Joe Dante une autre, George Miller une autre, et John Landis la quatrième.
Qui sont quand même pas une équipe de bras cassés.
C'est clair, et en plus, John Landis fait un épisode original, mais les autres prennent des épisodes qui ont bien marché dans la série, pour les adapter au cinéma. On peut se dire qu'au départ, ça démarre bien, et en fait, ça atterrit plutôt mal, entre autres parce que il y a eu un scandale qui a accompagné le tournage de ce film, parce que trois personnes sont décédées sur le tournage, et effectivement, je crois que la presse retient plus ça que le reste, mais surtout parce que ça tient pas la route, en fait. Et l'accueil du film est carrément désastreux.
C'est étonnant aussi, parce que, bon, Steven Spielberg est un réalisateur qu'on connaît, mais Joe Dante, qui a toujours été présenté comme la part sombre de Spielberg, parce que c'est un réalisateur très talentueux, mais plutôt dans les histoires plutôt sombres, on aurait pu se dire qu'il était justement fait pour la quatrième dimension.
Il faut croire que ça ne tient pas la route en grand format, je ne sais pas. Il y a eu un deuxième film aussi dont je connais beaucoup moins d'éléments, je n'en connais pas du tout d'ailleurs, soyons clairs, qui n'a pas marché non plus. Donc la quatrième dimension...
C'est une grosse série Z.
Voilà, la quatrième dimension au cinéma, ça n'est pas bon du tout.
C'est déjà surtout le format de la quatrième dimension, la manière dont on en a fait des films, c'est quatre épisodes imbriqués l'un après l'autre, avec un fil conducteur à l'arrière qui est très ténu, qui n'a pas beaucoup de rapport avec les histoires. C'est un peu bizarre comme film.
Oui, en effet. Et malheureusement, c'est ce genre de format-là qui va être choisi pour le remake de la série. Parce que la série devient culte dans les années 70, je vous l'ai dit. Résultat des courses, évidemment, on décide de la sortir des archives et de lui donner une nouvelle vie. C'est Philippe Deguerre qui est chargé de faire cette nouvelle série et il choisit de mettre trois intrigues par épisode. De nouveau, il reprend des choses qui ont l'air de marcher dès le départ, c'est-à-dire que ce sont toujours des textes d'auteurs de SF qui sont choisis comme base, ou ce sont des auteurs de SF qui les écrivent.
Parfois des remakes dans ces épisodes.
Oui, moitié-moitié. Mais c'est vrai que quand on part de textes originaux, ce sont des textes de Ray Bradbury, d'Arthur C. Clarke, de Stephen King, de Theodore Sturgeon, donc a priori ça démarre bien. Ce sont aussi des adaptateurs qui sont pas mauvais. Il y a des auteurs de romans, mais aussi un type qui s'appelle Stephen Boschko, par exemple, qui les adapte pour la série télé. Donc a priori ça devrait marcher. Dans les réalisateurs on voit les noms de Wes Craven, Tommy Lee Wallace qui est celui qui a fait Halloween 3, Joe Dante de nouveau, ou John Milius qui a fait Conan le Barbare et qui fera Rome après. Pourtant la série est présentée en 85. Si les premiers épisodes marchent bien, l'audience diminue tout de suite et en fait ça ça marche pas du tout. Et notamment à cause de cette composition en plusieurs intrigues qui désarçonne complètement le public et qui ne marche pas. Et là aussi, on était dans un 50 minutes, donc il faut croire que dès qu'on excède les 35 minutes, la quatrième dimension est mauvaise. C'est drôle, tiens, dès que ça excède les 35 minutes, ça ne marche pas. C'est comme si le temps était un problème pour la série elle-même, alors que c'est déjà un thème de la série. Vous voyez où je veux en venir ? Enfin, bref. C'est pas non plus la fin, donc la série s'arrête fort heureusement, mais il faut savoir que pour la syndication, il y a encore eu une troisième série, la quatrième dimension, qui a été mise en place, une trentaine d'épisodes de 26 minutes, et en fait, ces épisodes-là, plus l'épisode de la deuxième quatrième dimension, c'est compliqué, sont ce qui a été diffusé en France sous le nom de la cinquième dimension, sous la 5. Parce qu'au départ, en fait, la cinquième dimension, c'était pas un coup de pub de la 5, c'était dans la voix off, le créateur parlait vraiment de cinquième dimension, donc tout le monde a cru que c'était un coup de pub, mais au départ pas. Et donc c'est assez compliqué, parce qu'à un moment on s'y perd, savoir est-ce qu'on est dans la deuxième ou dans la troisième, c'est un peu compliqué tout ça. Et tout ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il faut absolument voir la quatrième dimension, et après il faut laisser tomber, franchement. Alors il faut savoir que la série a aussi, et je terminerai là-dessus, une relation particulière avec la France, parce que la diffusion qui a été faite, la première c'était en 65 sur l'ORTF, la plupart des gens adorent ou détestent ce qui fait qu'on la diffuse plus jusqu'en 84, mais en 84 c'est Temps X. Et la manière dont Temps X a diffusé cette série reste culte en fait. Et donc ce qui a rendu cette série aussi chère au cœur des Français et des Belges francophones probablement, c'est autant la série en tant que telle que Temps X présenté par les frères Bogdanov à l'époque. Ça a été rediffusé ensuite dans La Une est à vous, si vous vous souvenez. Et je pense que cette manière de programmer la série a vraiment été importante pour le succès qu'elle a pu avoir ici.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.